cela, nous sommes vos ennemis. Nous sommes contre vos idées, contre vos pensées, vos obscénités, votre chrétienté, votre violence. Nous refuserons toute idée d'une vie qui serait fatalement réduite au minimum vital.
Un mot trop, et c'est un mot qui va me rendre.
Les flics tabassent, sortent le P38 et les flics qui flinquent de classe.
Les flics, la police, les flics.
Et par des keufs se font paner, c'est connu, dans le Parisien t'as des histoires comme as.
La route du guette, mec, les flics aussi.
Moi du rouge, aussi rouge que vos bavures.
J'ai mal au cœur quand un frère meurt. Pour eux, un accident de travail, à t'en faire peur de sortir sans voir quoi.
De Radio Dio 895 sur la bande FM ou alors en streaming sur les www.radiodio.org. Il est midi et il paraît que c'est le dernier jour de l'année et pour cette émission du numéro 0, on a pensé vous diffuser un petit programme radiophonique. Il s'agit d'une fiction radiophonique réalisée il y a quelques années par des gens qui avaient envie de s'amuser un peu avec l'accent média, on va dire. Et donc voilà, c'est à la fois c'est une petite blague, et en même temps c'est pas tant une petite blague que ça. Enfin, c'est une fiction, hein, on est bien d'accord. Donc voilà, ça dure 3/4 d'heure. Et puis après, on reviendra pour un petit sujet, mais qu'on n'a pas approfondi parce qu'on n'a pas trop eu le temps. Mais
sujet d'actualité. Quoi.
Voilà. Donc voilà, ce programme, cette fiction s'appelle Chaos de Noël. Bonne écoute. Vous êtes bien à l'écoute du numéro 0. Donc je vous rappelle que le numéro 0, c'est un site, un média participatif alternatif qu'on peut retrouver sur lenumero0.l'autre.net. Et puis tous les 15 jours, c'est une émission de radio sur Radio Dio. Yo, à tout à l'heure.
En Ligue 1 ce soir, Lille rencontre Saint-Étienne, Monaco se déplace à Marseille et Istres reçoit l'Olympique Lyonnais. Et puis je vous l'annonçais en ouverture de ce flash, un grave incident a eu lieu il y a quelques minutes à peine à la station de métro République à Paris. Selon les premières informations dont nous disposons, il y aurait une victime. On retrouve tout de suite notre envoyé spécial, Étienne Lagrange, place de la République. Étienne, vous êtes à l'entrée de la station de métro. De quelles informations disposez-vous exactement ?
Eh bien, Coralie, la situation reste pour l'instant très confuse. Les grilles ont été tirées à l'entrée de la station et les agents de la RATP ne laissent entrer absolument personne. Seuls les usagers qui souhaitent regagner l'air libre sont encore autorisés à circuler. Et si l'on en croit ses premiers témoins, il semblerait qu'une petite fille soit morte en tombant sur les rails. L'accident aurait eu lieu vers 18h30 environ et si on en ignore encore les circonstances exactes, c'est apparemment une bousculade entre quelques usagers et des agents de sécurité qui seraient à l'origine du drame. De leur côté, les employés de la RATP présents sur place se refusent pour l'instant à faire le moindre commentaire. En direct de la place de la République, Étienne Lagrange pour FPI.
Merci Étienne. Nous vous recontactons bien sûr dans le journal de 19h30 pour faire le point sur ce drame. Un drame qui vient d'avoir lieu à la station de métro République à Paris et qui, je vous le rappelle, pourrait avoir fait une victime. Pour ceux qui comptaient circuler en métro ce soir, sachez que le trafic est très perturbé. Les lignes 3, 5, 8, 9 et 11 sont pour l'instant arrêtées et la station de métro République est bien sûr fermée. La météo pour demain, on l'attendait, c'est la neige qui arrive. Les premiers flocons tomberont dans l'est à la mi-journée.
Mardi 21 décembre, vous êtes à l'écoute de Fréquence Paris Info, il est 13h, le journal, Martial Leblanc.
L'enfance foudroyée hier soir dans le métro de Paris, dans ce journal retour sur cet événement tragique qui relance le débat sur l'insécurité dans les transports. Une puce électronique pour les sans-abri, cette expérience pilote a été lancée ce matin à Marseille par le ministre de la Cohésion sociale. Il s'agit de permettre un meilleur suivi des sans-domicile fixe. J-3 pour acheter vos cadeaux de Noël. Dans cette édition, toutes les astuces pour ceux qui n'ont pas le temps de se rendre dans les magasins. Bonjour. Paris pleure ce matin la petite Naïma, cette fillette de 8 ans qui a trouvé la mort hier soir sur un quai de métro. Naïma, un prénom qui signifie la paix. Naïma, victime innocente d'une violence aveugle. Dans ces circonstances dramatiques, tentons d'abord d'y voir un peu plus clair. Ingrid Cornette, que s'est-il passé exactement hier soir dans les couloirs de la station République ?
Il est un peu plus de 18h30 hier soir quand un banal contrôle de tickets à la station de métro République a dégénéré. D'après les premiers éléments de l'enquête, une dizaine de jeunes sans billets a tenté d'échapper aux agents de la RATP. Les deux groupes en sont rapidement venus aux mains. La situation s'est encore envenimée quand des usagers ont voulu intervenir. En quelques secondes, l'agitation a gagné les quais et les passagers, très nombreux à cette heure de pointe, ont semble-t-il paniqué. C'est au cours de cette gigantesque bousculade que la petite Naïma aurait été projetée sur les voies. S'en est suivie une véritable émeute qui a considérablement retardé le travail des pompiers et ce n'est que vers 23h30 que la station a pu être totalement évacuée. Voilà dans les grandes lignes comment se sont déroulés les dramatiques événements de la station République hier soir, mais beaucoup de points restent encore aussi obscurs que les tunnels du métro. Très peu de témoins ont été pour l'instant entendus et dès hier soir, des usagers mettaient en cause l'attitude des agents de la RATP. C'est maintenant au SRPJ de Paris d'essayer de démêler l'écheveau de ce tragique enchaînement qui a conduit, rappelons-le, à la mort d'une fillette hier soir à la station République.
Merci Ingrid. L'émotion est donc grande ce matin à la RATP. Les syndicats ont appelé à une journée de grève pour réclamer plus de sécurité sur le réseau. Michel Tétambois, agent de contrôle et délégué FO, nous expose les raisons de cette grogne.
Évidemment, la manifestation qui aura lieu demain, elle est très importante. Elle est très importante pour tout le monde, pas seulement pour les agents de sécurité et les contrôleurs. Tout le monde est concerné. Parce que quand ce qui s'est passé avec cette pauvre enfant, là, c'est quelque chose de dramatique. Mais ça montre quand même à tout le monde, malheureusement, à quel point nos conditions de travail sont déplorables. Nous n'avons aucun moyen, je dis bien aucun. Les gouvernements successifs n'ont rien fait, les pouvoirs publics, ils s'en foutent, il faut dire ce qui est. Nous, on ne peut pas travailler dans des conditions pareilles. Et quand un agent de sécurité risque sa peau quand il va travailler, il faut bien se rappeler que c'est tous les usagers qui risquent leur peau. Et alors c'est pour ça que la manifestation de demain, il faut qu'elle dépasse en fait les différents clivages et les corporations. D'ailleurs, apparemment, le syndicat de police seront parmi nous et nous en félicitons. Parce que là, il faut que tout le monde se sente concerné. Il faut de la solidarité. Là. Parce qu'on ne peut pas supporter que des fraudeurs. Alors, il y a eu la loi là, sur la fraude habituelle. C'est quelque chose c'est un premier pas. Mais les peines sont de fait complètement laxistes. C'est une loi qui c'est au bout de 10 amendes qui pourrait parfois risquer la prison. Mais bon, on voit comment ça se passe. Concrètement, c'est quoi ? C'est des fraudeurs qui n'ont plus peur de rien, qui n'hésitent pas, qui sont de plus en plus agressifs. Et ces gens-là, il faut le rappeler, c'est des multirécidivistes. On ne peut pas laisser ces gens-là se balader dans la rue, dans le métro comme ça. Il faut que le gouvernement fasse quelque chose. Là, on attend une vraie réponse. Là, on a besoin de vraiment de quelque chose. Parce que là, nous, on ne peut pas aller plus loin. Tous les jours, on bosse, on fait de notre mieux. Mais il faut que ça bouge. Là, il faut que ça bouge vraiment.
Et pour ne rien arranger, on a appris ce matin que plusieurs abribus ont été saccagés cette nuit à Paris. Pas de métro, de RER ni de bus aujourd'hui dans la capitale. Un trafic très perturbé sur le réseau SNCF. La circulation est donc chargée. Une victime de cette grève a accepté de s'exprimer au micro d'Étienne Lagrange.
Ouais, moi j'en ai marre, vraiment j'en peux plus quoi. Ça fait 2 heures que je suis coincé dans ma bagnole. Franchement c'est n'importe quoi. En plus j'ai même pas de chauffage, j'ai super froid. Je comprends pas qu'on puisse prendre en otage comme ça les gens qui travaillent. C'est toujours pareil de toute façon, c'est toujours pareil.
Non, vous savez, ici, bah, on a l'habitude, hein, faut prendre son mal en patience. Puis de toute façon, pour moi, ils cherchent à défendre leur beefsteak. Bah, tant mieux pour eux, moi, je serai à leur place, je ferai exactement la même chose. Et puis.
Est-ce que nous voulons, puisque nous.
Encore aujourd'hui, il y a des puristes pour dire que la vraie quiche ne se fait qu'avec du lard et surtout sans fromage. Jean-Pierre Tabord, lui, a choisi la fantaisie et vous propose par exemple une quiche anchois roquefort ou encore une quiche à la truffe et au gingembre. Retrouvez les références du livre de Jean-Pierre Tabord, 1001 quiches, sur notre site internet www.fpi.fr.
15h15 sur FPI, l'essentiel de l'actualité, Amaya Ferratini.
Manifestation silencieuse cet après-midi dans les rues de Paris. Plusieurs milliers de personnes défilent à l'appel d'associations de défense des droits de l'homme en mémoire de Naïma et pour dénoncer les méthodes musclées des contrôleurs de la RATP. Dans un instant, nous serons en direct de la fin de la manifestation. La fillette morte lundi soir sur un quai de métro a été enterrée ce matin au cimetière parisien de Pantin. Côté transport, c'est toujours le chaos. De nombreux agents de la RATP et de la SNCF sont en grève depuis hier. Si vous êtes en voiture, la préfecture vous conseille d'éviter les heures de pointe entre 17h30 et 19h. Une manifestation silencieuse rassemblant 5000 personnes selon la police et 15000 selon les organisateurs a donc quitté la place de la République peu après 13h tout à l'heure en direction du boulevard Barbès dans le 18e arrondissement. Des organisations comme SOS Racisme, le MRAP ou la Ligue des droits de l'homme faisaient partie du cortège. Michel Bardu, vous suivez la manifestation pour nous depuis le début. Où en est-on exactement ?
Écoutez, c'est un silence et un recueillement très impressionnant que le cortège a commencé à quitter la place de la République peu après 13h tout à l'heure. Deux des frères de Naïma défilent en tête portant un grand portrait de la fillette. Quelques slogans sont inscrits sur des draps blancs ou des t-shirts. On peut ainsi lire « Justice pour Naïma »,« Une vie vaut-elle un ticket » ou encore des caricatures représentant des contrôleurs de la RATP demandant aux passagers « Ton coupon ou un coup de pied ». Parmi les manifestants, il y a d'abord beaucoup de jeunes. C'est eux qui portent les pancartes les plus virulentes contre les contrôleurs. Et puis on a croisé aussi le représentant des associations à l'origine de la manifestation qui se refuse pour l'instant à toute déclaration. Les représentants des syndicats et des partis politiques jusqu'ici se sont fait très discrets. La tête du cortège devrait bientôt arriver sur le boulevard Barbès dans le 18e arrondissement, à quelques pas de l'appartement où vit la famille de la petite Naïma. En direct de la manifestation, Michel Bardu pour FPI.
Merci Michel Bardu. Bien entendu, nous vous retrouverons régulièrement pour faire un point avec...
sur FPI, les informations à Maya Ferratini.
Paris sous tension ce soir. La manifestation silencieuse partie en début d'après-midi de la place de la République a dégénéré alors qu'elle arrivait dans le 18e arrondissement. C'est là que résident, je vous le rappelle, les parents de Naïma, cette fillette qui a trouvé la mort lundi soir dans le métro, prise dans une bagarre entre des contrôleurs et des voyageurs sans ticket. Eh bien, des casseurs se sont mêlés aux manifestants et les événements sont en train de prendre une proportion inattendue. Michel Bardu, vous suivez la manifestation pour nous depuis ce midi. Est-ce que les esprits s'échauffent ?
Écoutez Amaya, si je vous décris ce qui m'entoure, vous allez rapidement comprendre que bien au contraire, la tension est à son comble ici depuis quelques heures. Au moment où je vous parle, une épaisse fumée noire a envahi la place, tout simplement parce que les casseurs ont mis le feu à des voitures et des poubelles entassées ici et là. On ne circule plus sur cette place parce que plus d'une centaine de personnes sont réunies sur la place du métro aérien et bloquent les voitures sur les boulevards Barbès, Rochechouart, La Chapelle et Magenta. Le quartier est vraiment très 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 tendu ce soir et des compagnies de CRS viennent encore d'être appelées en renfort pour la nuit. En direct du métro Barbès, Michel Bardu pour FPI.
Merci Michel Bardu. Un dispositif de sécurité important a en effet été mis en place dans le 18e arrondissement. Les autorités craignent en effet que la nuit n'adoucisse pas les mœurs. Le porte-parole de la préfecture, François Cassard.
Après les événements déplorables et condamnables survenus aujourd'hui dans le quartier de Barbès, il importe de restaurer au plus vite la tranquillité et la prospérité de ses habitants. Et quand je dis habitants, je pense d'abord aux enfants, aux personnes âgées ainsi qu'aux commerçants qui font la vie de cet arrondissement. Force doit rester à la loi. En conséquence, 6 compagnies de CRS et 2 unités de gendarmes mobiles resteront sur place jusqu'à demain matin pour garantir...
FPI, les 7h30, la revue de presse, Michel Bardu.
Consternation, titre aujourd'hui Le Parisien. La Croix demande pourquoi. Pour Libération, c'est le choc et Le Canard enchaîné ose le chaos de Noël. Le contrôleur s'est servi de la petite Naïma comme d'un bouclier humain et l'a entraînée dans sa chute, nous dit Isabelle Poitevin dans Le Parisien. Serge Julie nous décrit dans son éditorial la stupeur qui a saisi toute la rédaction lors du visionnage de la fameuse cassette vidéo. Cette cassette est arrivée par la poste hier soir dans toutes les rédactions et montre le drame qui s'est produit mardi dernier à la station République, nous raconte Damien Pierrot dans Ouest France. La RATP nous a menti, n'hésite pas à écrire Camille Boyer dans L'Humanité. Pour Philippe Val dans Charlie Hebdo, il y a de la démission dans l'air et Serge Julie craint une fracture sans précédent liée à des cafouillages politiques. Mais pour le Figaro, la situation n'est pas si désespérée, puisqu'avec un peu de bonne volonté, ce gouvernement s'en sortira, affirme Jean Dorléfond. Dans La Croix, Jean-Michel Guérand, lui, est pessimiste. Privilégier la répression au détriment de la prévention, et voilà ce que l'on obtient. Pour lui, si le gouvernement ne réagit pas rapidement, il s'expose...
Combien de fois d'enfer ?
Pas sur le Picard, allez, Anna.
Bonsoir. Ce sont les violences à Paris qui occuperont bien entendu l'essentiel de ce journal. Des violences qui ont pris de l'ampleur aujourd'hui puisqu'elles ont fait un mort. En effet, un jeune émeutier a été tué par un policier devant le Sénat en fin de journée. Au moment où je vous parle, la situation dans tout le quartier latin est encore extrêmement tendue. Nous faisons le point dans un instant. Cet après-midi, déjà, des émeutiers avaient pris pour cible l'hôtel de ville de Paris et le BHV à proximité. Le BHV dont le bâtiment a presque entièrement brûlé. Nous allons revenir aussi sur la fameuse cassette vidéo qui est parvenue ce matin dans la plupart des rédactions. Il semblerait qu'elle montre clairement la responsabilité d'un agent de la RATP dans la mort de la petite Naïma. La situation est confuse ce soir dans la capitale. Les pompiers sont toujours au travail sur le site du BHV qui n'est plus qu'une ruine. Au nord de Paris, dans le quartier de Barbès, la foule a dressé des barricades. Et au quartier latin, on redoute de nouvelles émeutes dans la nuit. Essayons d'y voir plus clair sur cette journée de violence avec vous, Clémentine Delahotte. Et revenons d'abord sur une nouvelle qui nous est parvenue par l'agence France Presse il y a à peine plus d'une heure. Une personne est morte à proximité du Sénat dans des heurts avec la police.
Effectivement, Pierre. D'après les informations, encore partielles, qui nous sont parvenues, un groupe d'une vingtaine de personnes non identifiées, très agressives, aurait voulu prendre d'assaut le palais du Luxembourg, siège du Sénat, vers 19h ce soir. Ce groupe se serait bien entendu heurté au service d'ordre du Sénat et aux nombreux policiers présents devant le bâtiment. Face à ces manifestants armés de barres de fer, selon des témoins, l'un de ces policiers aurait pris peur. Il aurait brandi son revolver de service. Deux balles ont été tirées, atteignant mortellement un jeune émeutier. Pour l'instant, nous n'en savons pas plus et nous ne connaissons pas l'identité des deux victimes.
Clémentine, plus tôt dans la journée, vous étiez vous-même dans le quartier de l'Hôtel de Ville, un peu par hasard d'ailleurs, vous étiez pour raison privée, et vous avez assisté aux affrontements. Comment cela s'est-il passé ?
Eh bien, vers 15h, des agents de la RATP manifestaient dans le quartier de l'Hôtel de Ville pour réclamer plus de sécurité dans les transports en commun. Très rapidement, plusieurs petits groupes qui n'avaient rien à voir avec les manifestants ont surgi des rues voisines. Des gens qui portaient des cagoules, des foulards devant le visage et qui se sont attaqués aux manifestants ainsi qu'aux CRS présents sur place. La situation a rapidement dégénéré. La police a sorti les canons à eau et les émeutiers se sont retranchés dans le BHV voisin. Ils ont commencé à piller, puis ils ont jeté sur les brigades de CRS le contenu de leur pillage. Et puis, vous le savez, rapidement, le feu a pris, faisant heureusement seulement quelques blessés. À l'heure qu'il est, près de 60 émeutiers sont en garde à vue.
Merci Clémentine. On peut penser qu'à l'origine de l'émeute meurtrière de cet après-midi se trouve la cassette parvenue ce matin dans les rédactions parisiennes. Une cassette vidéo qui remettrait en cause le scénario officiel de l'accident de mardi à la station République. Patrice Ledru, qu'avez-vous vu dans cette cassette ?
Et oui Pierre, cette cassette comme vous l'avez dit que nous avons pu visionner, alors l'image n'est pas d'excellente qualité, mais on a bien le temps d'apercevoir la cohue de ce lundi, de distinguer la scène sur le quai de la ligne 5 à la station République. Et ce que ne disait pas le rapport officiel jusqu'à présent, et c'est ce qu'on constate sur ces images, c'est la violence, l'agressivité du comportement des contrôleurs RATP et le fait qu'un des contrôleurs, avant de chuter sur la voie, a voulu se protéger des coups de certains passagers et il a utilisé ainsi la petite Naïma, il l'a entraînée dans sa chute. Alors bien sûr, le film doit encore être authentifié, la cassette n'était accompagnée d'aucune revendication, on n'en connaît pas du tout l'origine. Cet après-midi, le Premier ministre a réagi rapidement, mais il n'a fait que reconnaître l'embarras du gouvernement. Pour l'instant, une enquête a été ouverte.
Merci Patrice. Avec nous dans ce studio, Bernard-Henri Glückselkraut. Bonsoir.
Bonsoir.
Bernard-Henri Glückselkraut, je rappelle que vous êtes philosophe, romancier, directeur de recherche à l'École des hautes études en sciences sociales, ancien chargé de mission auprès de Bernard Kouchner dans le gouvernement Jospin, ancien conseiller de Luc Ferry lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale. Vous êtes aussi conseiller du directoire du journal Le Monde, éditorialiste au Figaro et chroniqueur dans l'émission de Stéphane Bern chez nos confrères de France Inter. Vous, qui avez fait mai 68, arrivez-vous à comprendre les émeutes actuelles dans Paris ?
Je crois d'abord qu'il ne faut pas confondre les époques. Mai 68 était une grande révolte politique, avec un espoir, une volonté de construction. Aujourd'hui, en ce moment, on ne voit pas grand-chose d'autre qu'une volonté de destruction. Et quand je dis ça, j'ai en tête les scènes de cet après-midi au BHV, qui tournent en boucle sur nos écrans de télévision. Comme un mauvais film catastrophe. Vous savez...
Vous pensez aussi, j'imagine, aux morts du Sénat qu'on a pris. On a pris cette mort il n'y a pas longtemps.
Évidemment, je pense aux deux morts de l'incendie de cet après-midi.
Non, finalement, il n'y en a eu qu'un. On a eu la confirmation tout à l'heure.
Mais je pense quand même à ce mort. Et je pense aussi aux jeunes gens tués devant le Sénat ce soir. Et je m'adresse aux casseurs. Qui que vous soyez, voulez-vous vraiment semer la mort?
Quelles sont, d'après vous, les motivations des casseurs?
Je ne sais pas. On ne sait même pas qui ils sont. Je dirais qu'ils se saisissent d'une injustice, qui est la mort de cette petite fille en début de semaine, pour provoquer le chaos. Ils veulent rétablir la justice, mais ils ne font que provoquer la peur. Ils sont une poignée, bien organisée, bien répartie, et ils se saisissent honteusement de la tragédie de lundi pour semer l'anarchie. Ces gens cagoulés se veulent révolutionnaires. Ce sont juste des criminels illuminés.
Vous n'y allez pas par quatre chemins, Bernard-Henri Glückselkraut. Est-ce que vous avez un message à leur transmettre?
Je veux leur dire juste ceci. Revenez à la raison. Revenez au calme et assumez vos actes. Enlevez vos foulards, enlevez vos cagoules et posez les armes. Votre méthode n'est pas la bonne.
Je crois que votre message est clair. Merci Bernard-Henri Glückselkraut. Dans le reste de l'actualité, rapidement, le...
Les policiers à la goutte d'or, des émeutiers étaient barricadés depuis hier autour de quelques rues. On peut dire que la commune de Barbès est morte ce matin. À quelques heures du réveillon, un geste de la SNCF, après 3 jours sans train, vous aurez peut-être une chance de manger la dinde de Noël avec vos grands-parents de Saint-Jean-du-Trou ce soir. Et puis une opinion publique très partagée. D'après un sondage du Parisien, 65% des habitants verraient bien l'armée dans la rue, mais 51% pensent que Jean-Pierre Raffarin...
Scène d'émeute ce matin à Gare du Nord à Paris. Plusieurs centaines de personnes venant apparemment du quartier de la Goutte d'Or dans le 18e arrondissement sont venues aux mains avec des usagers exaspérés par les heures d'attente dans la gare à la veille de Noël. Plusieurs dizaines de personnes ont été blessées alors que la police peine à rétablir le calme. Je vous rappelle que ce matin, un coup de filet de la police dans le quartier de la Goutte d'Or justement a permis l'arrestation.
Salle est pleine.
Des groupes de casseurs ont mis à sac les rez-de-chaussée des Galeries Lafayette et du Printemps ce matin. Dans la panique générale, on a vu des clients repartir avec leur panier Lafayette Gourmet sous le manteau. Pendant ce temps, l'association des commerçants parisiens déposait une gerbe de fleurs devant l'entrée principale du BHV avant de manifester contre le terrorisme et la violence jusqu'à la Concorde. Je vous rappelle que les blessés de la Gare du Nord sont toujours en observation à l'hôpital Lariboisière. Un numéro vert mis en place par la préfecture est disponible sur notre site. Vous orientera vers des psychologues et vers des agents des renseignements.
Scientifique par exemple.
On vient de l'apprendre, une bombe artisanale vient d'exploser près d'une porte de la prison de la Santé à Paris, sans pour autant faire de dégâts. Un incident qui intervient alors que la tension est vive depuis ce matin dans la capitale. Le calme est revenu sur les grands boulevards où les grands magasins, Galeries Lafayette et Printemps ont été pillés par des vandales dans la matinée. Depuis, c'est dans le sud de la capitale que la situation est difficile. Des animaux sont parvenus à s'échapper du jardin des plantes dans le 5e arrondissement après que leur cage ait été ouverte. Des animaux qui ont provoqué plusieurs accidents.
La grande époque.
C'est un Noël de la fraternité qu'a souhaité Jacques Chirac aux Français il y a quelques minutes. Une nativité recueillie et familiale, a-t-il précisé. Un message de paix alors que ce soir, le plan épervier bleu passe dans le rouge. Des renforts de gendarmes mobiles ont été déployés.
Michel Lafond.
Bonjour. La vie plus forte que la mort, c'est le message qu'a choisi l'archevêque de Paris pour son homélie de Noël, prononcée ce matin à Notre-Dame. Une homélie perturbée par un petit groupe qui a réussi à s'introduire dans la cathédrale avant la messe. Perchés sur les gargouilles qui dominent la façade, ces jeunes provocateurs ont fait résonner le grand bourdon de la cathédrale au moment même où Mgr Lustiger s'adressait aux fidèles. L'archevêque de Paris a dû s'interrompre quelques minutes, le temps pour les forces de l'ordre d'interpeller ce petit monde. Il s'agirait d'intermittents du spectacle et de chômeurs. Malgré cet incident, Mgr Lustiger a donc voulu adresser un message de paix. Nous l'écoutons.
Quand les bergers de Bethléem, guidés par l'ange de Dieu, ont découvert l'enfant dans l'étable, ont-ils compris le message que leur envoyait le Seigneur ? N'ont-ils pas été saisis d'un vertige face à la toute-puissance de ce nouveau-né emmailloté ? Mais le Seigneur leur a donné un signe. Le Seigneur a guidé ses enfants vers le lieu de la nativité et il leur a dit « Regardez, voici le Christ, voici mon Fils, celui qui rachètera les péchés du monde. » Aujourd'hui, les brebis égarées qui sèment le désordre dans la cité sont comme les bergers de Bethléem. Aujourd'hui, nous devons leur donner un signe pour leur dire « Venez, enfants, et entrez avec nous dans le chemin lumineux. »
Noël, paix des cœurs, toujours est-il que la nuit a été calme à Paris. Selon la préfecture de police, seules 2 entrées de métro ont été endommagées et un...
Atlantique, par exemple.
Bonsoir. Devine où je suis, l'émission où les auditeurs de FPI ont la parole.
Devine où je suis.
Devine où je suis. Devine où je suis.
Devine où je suis.
Devine où je suis. Devine où je suis.
Le sujet de Devine où je suis ce soir était pour le moins incontournable. La capitale vit depuis plusieurs jours maintenant une situation de crise civile jamais vue depuis plusieurs dizaines d'années. Depuis la commune peut-être, même si ça c'est aux historiens et aux sociologues d'en juger. En tout cas, la situation à Paris est pour le moins tendue. Il y a quelques minutes, Clotaire Sanchez vient de vous le dire dans son journal de 19h, une 50aine de personnes ont été arrêtées dans le 18e arrondissement après une vaste opération de la police et du GIGN. Ce soir, Devine où je suis, l'émission des auditeurs de FPI va se pencher sur les réactions de la population à cette situation de crise. Nous essaierons avec vous d'y voir plus clair, avec vos analyses, vos témoignages, et en présence ici en studio des membres de la rédaction de FPI ainsi qu'avec Bernard-Henri Luxencroat qui joue les consultants pour notre antenne depuis bientôt une semaine. Tout de suite, nous prenons un premier appel. Bonsoir, c'est à vous, vous êtes sur FPI, allez-y, prenez la parole, n'ayez pas peur, vous êtes à Devine où je suis.
Allô ?
Oui, c'est à vous, parlez, nous vous écoutons, n'ayez pas peur, allez-y.
Allô, je suis à l'antenne, là ?
Oui, on peut dire ça comme ça, allez-y, lancez-vous.
Alors oui, alors bonsoir.
Bonsoir.
Je voulais simplement dire que j'avais peur, voilà.
Oui, effectivement, voilà une réaction qui synthétise bien le sentiment d'angoisse qui transparaît souvent dans la population, pas uniquement parisienne d'ailleurs, un sentiment de frayeur à l'idée que la flambée de violence dans la capitale contamine tous les quartiers, toute la ville, puis tout le territoire. Est-ce que ce sentiment est rationnel, Bernard-Henri Luxencroat ?
Je dirais oui.
Très bien.
Et en même temps...
Oui.
Et en même temps, les autorités réagissent avec efficacité.
Oui, effectivement.
Donc, je dirais non.
Un autre appel au standard de Devine où je suis, je crois que c'est Christine de Vanves.
Allô, bonjour, c'est Christine de Vanves, j'appelle de banlieue parisienne.
Oui, allez-y, posez votre question. Posez votre question, s'il vous plaît, Christine.
Oui, je voulais savoir si cette révolte ne pourrait pas être comprise. Je veux dire, il y a des morts, il y a de la casse, et beaucoup d'excitation, mais il y a forcément une volonté de remise en cause de la société, un sentiment de sincère d'une grande partie de la population. Est-ce qu'on peut pas comprendre ça ?
On vous entend un peu mal, Christine. Votre avis, Patrice Ledru, de la rédaction de FPI, vous avez vu de vos yeux les émeutiers à l'œuvre ?
Alors oui, Pierre, je voudrais dire à Christine ainsi qu'à nos auditeurs, nous journalistes de FPI, nous avons vu ces émeutiers dans la rue et là vraiment quand on les voit, on comprend tout de suite qu'il est impossible de discuter avec eux. Ils sont allés trop loin tout de suite.
Vous les avez vus.
Nous les avons vus au BHV, nous les avons vus à Barbès, à la Goutte d'Or. Leur violence, leur agressivité bloquent définitivement toute possibilité de négociation, toute possibilité de débat. Ce n'est pas possible de discuter avec eux. D'ailleurs, encore faudrait-il qu'ils aient des représentants, des personnes avec qui on puisse négocier. Or, les autorités, elles n'ont personne en face. Il n'y a pas d'organisation. Pour l'instant, je le rappelle, on ne sait toujours pas précisément de qui il s'agit.
Merci, Patrice, de votre esprit de synthèse. Bernard-Henri Glixon-Crout, un mot, vous ne les avez pas vus, vous les émettiez.
En un mot, la violence et la criminalité ne constituent en aucun cas un langage. Et pas de langage, pas de discussion. Pas de discussion, pas de débat.
Pas de débat, c'est exactement ce que nous avons constaté,
oui,
sur le terrain.
Avec d'autres mots.
Et... Tout de suite, un nouvel appel au standard de Devine où je suis. C'est Bernard de Paris 10e. Bonsoir.
Bonsoir. Je voudrais simplement dire au gouvernement que c'est une bonne chose de réagir durement à une révolte dure. Je veux bien croire que la situation sociale de cette fin d'année est préoccupante et que les conditions de vie d'une large partie de la population se sont dégradées ces dernières années. Mais là, franchement, le mouvement va trop loin.
D'après vous, Bernard, les émeutes seraient dues à la situation sociale.
Je tiens à préciser que je ne suis pas du même bord politique que le gouvernement actuel, hein, mais ce coup-ci, je soutiens sa réaction.
Je crois qu'on a compris une précision. Clémentine Delahaye, vous faites partie de la rédaction de FPI.
Oui, alors moi je crois que cet auditeur est assez caractéristique. Il représente bien la population. D'ailleurs, ces derniers jours, de nombreux experts, des scientifiques, aussi des sociologues, expliquent que les émeutiers, du fait de leur violence, se sont mis toute une partie de la population à dos. Des gens qui pourtant, en d'autres circonstances, auraient pu les suivre, ou au moins ne pas juger leur action et pas le voir d'un mauvais œil. Alors, évidemment, le fait que les manifestations aient dégénéré et en plus entraîné la mort d'une personne devant le BHV, hein, où j'étais, je vous le rappelle, là, c'est sûr, la population ne peut plus suivre.
Très bien, merci. Encore un appel, c'est à vous. Bonjour. Bonsoir.
Bonjour. Jean Maurouge. J'appelle juste pour dire à ma femme que je...
Décembre, il est 13h, le journal Henri Seldon.
Malgré une nuit agitée, des pillages sporadiques et de nombreux affrontements avec les forces de l'ordre, le calme semble être revenu à Paris ce matin, où la police maintient le bouclage de plusieurs zones. Le quartier de Barbès, particulièrement exposé pendant les récents événements, de nouveaux victimes de la barbarie terroriste. Le commissariat a reçu aujourd'hui plusieurs lettres piégées, engins artisanaux qui ont grièvement blessé un policier. Des arrestations sont en cours. En marge de Barbès, où de nouveaux foyers d'émeutes semblent se déclarer, la SNCF a repris le trafic ce matin Gare du Nord, où nous retrouverons tout à l'heure Étienne Lagrange en direct. La mobilisation policière continue et l'armée semble préparée à éventuellement intervenir pour aider à sécuriser certains quartiers toujours incontrôlés. Nous y reviendrons. Enfin, début de polémique à l'Assemblée nationale. Selon un député de la majorité proche de Didier Julia, les émeutiers qui font régner la terreur à Paris auraient séjourné dans des camps d'entraînement situés en Afghanistan. C'est donc une nouvelle journée de violence à laquelle sont confrontés les Parisiens. Ce matin vers 8h, l'information est confirmée par la préfecture de police. Des lettres piégées ont explosé au commissariat central du 18e arrondissement, blessant grièvement un jeune auxiliaire de police qui a dû être amputé de plusieurs doigts. De nouvelles arrestations sont en cours, d'où un regain de tension dans le quartier de Barbès déjà très sensible. Par ailleurs, on vient de l'apprendre à l'instant, des tirs à l'arme lourde ont été signalés à la station La Chapelle et sur deux autres stations du métro aérien de la ligne 2. Aucune information supplémentaire n'est pour l'instant disponible, mais nous y reviendrons évidemment dès que nous en saurons un peu plus. En attendant, ce qui semble se dégager des points contradictoires reçus en ce moment même à la rédaction, c'est qu'un bazooka artisanal aurait été utilisé à plusieurs reprises par un groupe d'individus non identifiés. C'est la première fois depuis la guerre d'Algérie que les armes de guerre sont utilisées en plein Paris à des fins terroristes. Un précédent qui risque de faire couler beaucoup d'encre et d'alimenter la polémique nationale. Dans l'attente d'éléments nouveaux, nous retrouvons tout de suite Étienne Lagrange en direct à la gare du Nord. Étienne, la SNCF a repris le trafic depuis ce matin 8h. Que se passe-t-il maintenant ?
Eh bien écoutez, le moins que l'on puisse dire, c'est que les choses se sont vraiment compliquées depuis ce matin et ont même dégénéré depuis seulement quelques minutes. Alors tout était calme jusqu'à maintenant, mais il semble que de nouvelles émeutes aient encore une fois éclaté au sein même de la gare du Nord. Alors, apparemment, je dis bien apparemment, les agents de la SNCF et de la RATP auraient bloqué certains accès qui empêcheraient les usagers de se diriger vers le métro. Alors il y a une énorme queue ici, des gens se bousculent, c'est une véritable panique et il me semble même voir des flammes s'élever au-dessus de la foule. Mais il y a beaucoup de monde et les mouvements de la foule m'empêchent de m'approcher. Je vous recontacte dès que possible pour faire un point plus précis sur la situation. En tout cas, tout ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est qu'il règne une panique indescriptible à la gare du Nord et on peut craindre que tout cela entraîne de nouvelles victimes. En direct de la gare du Nord, Étienne Lagrange pour FPI.
Oui, merci Étienne. Nous attendons de vos nouvelles très rapidement. Donc, de nouvelles émeutes donc à Barbès, une panique à la gare du Nord. La journée avait pourtant démarré dans le calme, mais la situation dégénère à nouveau. Derrière ces émeutes, la main d'Al-Qaïda, c'est en tout cas ce qu'affirme un député de la majorité, Jean-Charles Delancry. Selon lui, les meneurs du désordre actuel auraient séjourné dans des camps afghans où sont formés les combattants du djihad international. Notre correspondant à Kaboul a tenté d'en savoir plus.
L'Afghanistan ne doit pas être le bouc émissaire du désordre mondial. Mon peuple mérite davantage de respect.
Ce sera ton virulent que le président allemand Hamid Karzai a réagi au propos de Jean-Charles Delancry. Hier, à l'Assemblée, le député français avait insinué que certains meneurs du mouvement qui ravage actuellement Paris pourraient avoir été formés dans les camps d'entraînement du sud de l'Afghanistan. Notre engagement dans la lutte contre le terrorisme ne peut...
Il est 7h30, la revue de presse, Michel Bardou.
Ce sont les jeunes qui ont commencé à brûler les trains, témoigne un conducteur dans Le Parisien. Aujourd'hui, c'est donc la bousculade qui a fait 4 morts à Gare du Nord hier après-midi qui est à la une de vos quotidiens. La RATP et la SNCF avaient bloqué les jeunes venus des banlieues à l'intérieur de la gare, renchérit un usager dans Ouest-France. Le Parisien, de son côté, consacre une page entière aux habitants de la banlieue nord obligés de camper devant cette gare. Et oui, puisque depuis hier, 15h30, la SNCF et la RATP ont repris la grève et les usagers dorment dans des tentes de fortune, constate la journaliste Pascale Dorigny. Et puis l'Humanité consacre un reportage aux difficultés de circuler dans le nord-est de la capitale. L'armée est à chaque carrefour, on se croirait en Palestine, il contrôle tout le monde, il faut faire la queue pendant des heures, se plaint Simone, caissière au Monoprix de l'avenue Secrétan, près du métro Jaurès. Pierre-Yves Dupuis, commissaire de police dans le 18e, est en 4e de couverture de Libération. Nous avons essayé d'alarmer le ministère lorsque nous avons senti que quelque chose de grave se préparait dans le quartier, mais il était déjà trop tard, nous affirme le policier. Pierre-Yves Dupuis, qui est d'ailleurs également interviewé dans Le Parisien, puisqu'il est l'une des victimes de l'attentat au colis piégé de la journée d'hier. Je l'ai échappé belle, j'ai eu de la chance, dit-il. En effet, puisque comme nous l'explique Marie Pendrieu, il n'a eu que 2 doigts arrachés et que l'un de ses collègues est resté dans le coma et se trouve actuellement au service des grands brûlés de l'hôpital Tenon. Ces malheureux incidents qui ont émaillé la journée d'hier dans le nord-est de la capitale font dire à Serge Julie qu'on est en droit de se demander ce qu'attend le gouvernement pour réagir à ces actes barbares. Il admet que l'armée a mis en place des postes de surveillance tout autour de Barbès et des cités à risque, mais il constate que cela n'empêche pas les voitures de continuer à être brûlées. Dans le Figaro, Jean Dormesfond reste optimiste puisqu'il écrit qu'il faut croire au bon sens populaire français. L'ordre sera rétabli, selon lui, dès que les quelques dégénérés qui saccagent notre capitale seront mis à Neuilly.
Journal Coralie Jeanlin.
Alerte au poison dans la capitale, 2 infractions ont été constatées ce matin sur les réservoirs d'eau de la ville. 5 quartiers sont privés d'eau potable. La ruée vers les distributeurs automatiques d'argent liquide. Il y a quelques heures, le ministère des Finances annonçait qu'à partir de ce soir, seule la Banque de France sera habilitée à distribuer des billets. Les quartiers s'organisent, nous reviendrons sur le 13e arrondissement où un jeune a été grièvement blessé hier dans une altercation avec des vigiles. Bonjour, Paris empoisonné. C'est la menace qui pèse désormais sur la capitale. Ce matin, on apprenait que les réservoirs de Boulogne et de Saint-Germain-en-Laye avaient été visités pendant la nuit. Les carpes, qui sont l'indicateur de qualité de l'eau, flottaient le ventre en l'air.
C'est la société Eau de Paris, garante de la qualité de l'eau, qui a tiré ce matin la sonnette d'alarme. L'information qu'elle révèle est grave. Le virus de l'hépatite A a été détecté dans les eaux des bassins alimentant les arrondissements situés à l'est de la capitale. La thèse criminelle est privilégiée par la police. Les eaux des réservoirs de Boulogne et de Saint-Germain-en-Laye ont apparemment été souillées par des matières fécales. Il est donc formellement déconseillé, permettez-moi Coralie d'insister sur ce point, il est donc interdit de boire l'eau du robinet. Les personnes qui auraient bu de l'eau ce matin doivent impérativement surveiller leur état de santé. L'hépatite A se manifeste par une fatigue plus ou moins marquée, un syndrome pseudo-grippal avec fièvre, frissons et douleurs musculaires, ainsi que des troubles digestifs modérés. Pas d'affolement tout de même, cette maladie n'est pas mortelle si elle est prise à temps. Les personnes potentiellement infectées doivent se rendre dès à présent au service des urgences de l'hôpital le plus proche. Le reste de la population est appelée à ne pas encombrer les hôpitaux et par précaution à boire de l'eau minérale.
Merci Justine Tronc. Et puis n'oubliez pas que la liste des points de distribution d'eau minérale organisée par les pompiers de Paris est disponible sur le site www.gsoifdevie.org ou au 0 892 36 36 36. Rappelons que l'action Nestlé réalise une ascension fulgurante, plus 28% en 3 heures. Distributeurs éventrés, agents saccagés pendant la nuit. Depuis plus d'une semaine maintenant, les banques parisiennes subissent des attaques régulières. Et aujourd'hui, un groupe d'individus a tenté d'attaquer un fourgon blindé dans le centre de la capitale. Hier déjà, Daniel Bouton, le président de la Société Générale, déclarait « c'en est trop ». Et il y a quelques heures, un communiqué du ministère des Finances annonçait que seule la Banque de France pourrait désormais distribuer du liquide. Devant le siège de l'établissement, dans le premier arrondissement, certains font déjà la queue. Nasser Loubia.
Effectivement, Coralie, les files d'attente s'allongent sur plusieurs centaines de mètres ici devant le siège parisien de la Banque de France. Près de 20 000 personnes attendent leur tour sous l'œil des CRS. Elles espèrent retirer rapidement de quoi subvenir à leurs besoins pour ces prochains jours. Je suis avec Yvonne. Yvonne, vous êtes ici depuis plus de 6 heures, je crois.
Oui, écoutez, je suis arrivée ce matin, il faisait encore nuit, mais je me doutais du coup fourré, hein, les banquiers, quand on a besoin d'eux, il n'y a plus personne. Moi j'ai 3 enfants, hein, ça fait 3 bouches à nourrir, alors je suis prête à passer la nuit ici, si je ne bougerai pas, je vous le dis, je ne bougerai pas. Hein.
Vous le voyez Coralie, pour le moment, et malgré un vent particulièrement cinglant, les Parisiens font preuve de philosophie, certains se réjouissent même de la situation. Je discutais tout à l'heure avec un jeune homme qui espère que cet énorme bug fasse tout sauter, y compris ses agios, ses dettes et ses crédits. C'est beaucoup moins calme en revanche à l'intérieur de la banque, transformée en véritable camp retranché, contrôle d'identité musclé, détecteur de métaux, maître chien. Un détachement policier est venu prêter main forte au personnel. La direction a précisé qu'elle refuserait les clients dont le compte est débiteur ne serait-ce que d'un euro. Résultat, le ton monte. On ne compte pour l'instant qu'un bras cassé, mais la situation peut dégénérer d'une minute à l'autre. Je m'approche d'un monsieur qui se dirige vers la sortie. Monsieur, monsieur, vous venez de retirer 1000 euros. Vous pensez que ce sera suffisant?
Bah, écoutez, on va déjà faire avec. Hein. Et puis s'il le faut, j'irai chez ma fille en province. Hein. Là-bas, je crois que les distributeurs fonctionnent encore. Enfin, je vais déjà essayer de ne pas me faire piquer cet argent-là.
Une sage résolution, Coralie, car dans la foule tassée devant l'entrée, on murmure déjà qu'il n'y aura pas suffisamment de liquide pour tout le monde. En direct du siège de la Banque de France, Nasser Loubia pour FPI.
D'ailleurs, vous le savez, les exactions des derniers jours n'épargnent aucun quartier. Nombreux sont ceux parmi vous qui hésitent même à s'aventurer à pied. Hier, devant le supermarché asiatique Tang Frères, une milice mise en place par les habitants a eu maille à partir avec une bande de jeunes venus des banlieues sud, blessant grièvement l'un d'eux. Des milices de plus en plus présentes dans la ville, organisées spontanément par les commerçants et les associations de quartier. Et tout cela alors que les forces de l'ordre semblent de plus en plus dépassées. Alors, s'organiser ou pas, pour certains, c'est un mal nécessaire, pour d'autres, une affaire de survie. Sophie Bulot est allée poser la question au HAL.
Oui, bah nous, on a été obligés de les embaucher, hein, parce que bah, le commerce de la chaussure, c'est pas un métier facile. Hein, c'est pas un métier facile, et là, même les pieds gauches, ils disparaissaient. On a été obligés.
Voilà, il y en a ras-le-bol. Hein. Il y en a ras-le-bol, ils vont tout nous prendre. Après, il faudra aller payer des vigiles avec les impôts qu'on paye. Moi, les gars, là, je les attends. Là. Je les attends et je serai allé recevoir.
Je vous le signalais, alors qu'un climat d'insécurité règne dans Paris, il semble que le phénomène ne fasse pas tache d'huile. Nos correspondants nous signalent pour l'instant un calme absolu en province, à l'exception des faits...
Vous n'aurez pas...
Jeudi 29 décembre, 21h, les informations, Martial Leblanc.
Bonsoir. On vient de l'apprendre, le gouvernement décrète l'état de siège. La réunion exceptionnelle du Conseil des ministres à l'hôtel Matignon vient de s'achever. Ingrid Cornette, vous êtes sur place. Que pouvez-vous nous dire ?
Écoutez, Martial, le porte-parole du gouvernement a terminé son intervention il y a quelques instants seulement. Il a donc annoncé, comme on l'attendait, que l'état de siège était décrété dans la capitale et qu'il entrerait en vigueur dès ce soir minuit. Ce qui veut dire en clair que des unités militaires vont prendre position un peu partout dans Paris, notamment sur les axes stratégiques que sont les boulevards de Rochechouart, de la Chapelle, de la Villette, de Belleville, de Ménilmontant, de Charonne, des Maréchaux et de la porte de Clignancourt à la porte de Vincennes. Ainsi que dans tous les quartiers où les RER ont été les plus violents ces derniers jours, c'est-à-dire un peu partout à travers la ville. Voilà pour la principale information de cette intervention. À noter que Jean-François Copé est apparu visiblement contrarié devant les journalistes. Il a tenu des propos très alarmistes, évoquant des heures tragiques pour la France et une situation de chaos. Le sort du pays est maintenant entre les mains du Parlement, qui doit décider dans les jours à venir d'une éventuelle prolongation de l'état de siège. En direct de Matignon, Ingrid Cornette, FPI.
Je vous remercie Ingrid, vous étiez donc en direct de l'hôtel Matignon, où le Conseil des ministres vient donc de décréter l'état de siège, une décision sans précédent dans l'histoire de la Ve République. Nous reprendrons bien entendu l'antenne.
fasse gros.
Je parle.
Elle est enfermée.
Le 30 décembre, il est 8h15, la revue de presse internationale, Henri Selvan.
Le chaos. Le chaos et la désolation, la guerre, l'insurrection, la révolution, la guerre civile et fratricide. Voilà quelques-uns des termes qu'on peut lire ce matin dans la presse européenne, où les journalistes incrédules commentent une situation inédite qui n'en finit pas de dégénérer. De guerre civile, le quotidien italien Testa di Gattomerdoso ne fait pas mention, mais insiste Giordano Cullo, son éditorialiste bien connu. Il est clair que la France doit choisir entre une situation ingérable socialement et politiquement et une réaction rapide du gouvernement. Punir les responsables, maintenir l'ordre, respecter la loi, telles sont les références avancées par le journal italien. Beaucoup plus ironique, le quotidien anglais de Madafaka titre « And now » à la lune, et maintenant, à la une, pardon, et maintenant donc, en précisant que les Français paient aujourd'hui le prix de la politique européenne désastreuse du gouvernement Chirac, qui s'est maintenu à distance d'une réflexion suffisamment libéraliste pour contenter à la fois les masses et le patronat. Très alarmiste, l'hebdomadaire communiste portugais Ram de Nevum rejette clairement la faute sur la politique sociale française, une politique, je cite, basée sur l'exclusion, le mépris des classes laborieuses et l'exploitation toujours croissante de la misère. Il est clair, continue le journaliste, que la France connaît en ce moment une des pages les plus sombres de son histoire et qu'il appartient au peuple français de changer la donne économique tout en se réconciliant. Enfin, beaucoup plus pragmatique, le quotidien suisse La Lenteur s'inquiète des conséquences économiques que la situation française entraîne chez son voisin helvète. Les banques sont prises d'assaut et les Français font la queue pour ouvrir un compte chez nous, commente le journal. Un constat d'autant plus amer, comme le signale le mensuel suédois Kreutz, que les caisses de l'État ne pourraient pas maintenir un tel niveau d'alerte bien longtemps sans relancer la machine économique. On le voit, la tendance est à l'inquiétude et l'on décèle ça et là quelques remarques polies des journalistes à l'égard de leur propre gouvernant. Et si c'était nous, s'interroge le plus grand quotidien.
Il est 21h54 sur FPI, nous allons interrompre notre émission un peu plus tôt que prévu pour laisser place à un flash spécial d'information avec Amaya Ferratini.
Bonsoir, FPI interrompt ses programmes car on vient d'apprendre que le président a décrété l'état d'urgence. Il s'apprête d'un instant à l'autre à faire une déclaration solennelle à la nation. On ne sait pas encore quel sera le contenu du message de Jacques Chirac, mais il s'agit d'ores et déjà d'une annonce historique. FPI a bien entendu mis tous les moyens à disposition pour vous permettre de vivre cette déclaration en direct dans quelques minutes. Cette déclaration est sans doute suscitée par les terribles événements de la journée, par les incroyables événements de la journée. Paris n'avait pas connu de telles scènes de violence depuis la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est bien plus des images de la Commune de 1871 qui viennent à l'esprit. Le dernier bilan des affrontements entre l'armée et la foule amassée porte de Bagnolet fait état de 35 morts et de plusieurs centaines de blessés, parmi lesquels plusieurs de nos confrères journalistes. Officiellement, les militaires se sont contentés de tirer des balles en caoutchouc, mais cela aurait créé un mouvement de panique et c'est dans cette bousculade que les victimes auraient trouvé la mort. Et avant cette terrible aggravation de la situation, je vous rappelle qu'un photographe de l'agence Epsilon a trouvé la mort cet après-midi lors d'autres émeutes au commissariat du 20e arrondissement. Alors qu'on me signale que le président s'apprête à prendre la parole en direct du perron de l'Élysée, je vous laisse écouter la déclaration de Jacques Chirac.
Je n'ai pas besoin de vous dire que je suis consterné par ce qui se passe actuellement. Et ma première pensée ira, vous l'imaginez, aux victimes innocentes de cette situation. Nous ne voulons pas laisser se développer un système qui ne pourrait véritablement conduire qu'à l'anarchie ou un régime de nature fasciste. Je suis naturellement et toujours partisan de ce que j'appellerai respectueusement la palabre, respectueusement, c'est-à-dire le dialogue, la conversation entre chacun, même si actuellement, il faut bien reconnaître que les conditions ne sont pas très...
Sous le bonheur du monde, et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins.
Bonjour, dernière journée de l'année, aujourd'hui, vendredi 31 décembre. À Paris, c'est toujours l'état de siège. Jacques Chirac aurait passé toute la journée dans l'abri anti-atomique de l'Élysée, tout en faisant passer des messages se voulant rassurants. La situation est en passe d'être maîtrisée, a-t-il ainsi affirmé dans un texte diffusé sur le site internet de la présidence de la République. Pendant ce temps, Nicolas Sarkozy... Excusez-moi, je peux m'excuser, ces personnes sont en train d'entrer dans le studio là.
Samedi 1er janvier, il est 10h, vous êtes sur Fréquence Paris Info. Pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous ne pouvons assurer la diffusion de nos programmes habituels. Toute l'équipe de FPI vous prie de l'en excuser. Samedi 1er janvier, il est 16h, vous êtes sur Fréquence Paris Info. Pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous ne pouvons assurer la diffusion de nos programmes habituels. Toute l'équipe de FPI vous prie de l'en excuser.
C'était donc Chaos de Noël, donc une fiction radiophonique qui a été réalisée en mars 2005, donc c'est il y a quelques années. Donc FPI, bien sûr, c'est une radio qui n'existe pas, mais bah, si finalement, si on écoute souvent la radio, en l'occurrence France Info par exemple, eh bien on se rend compte que c'est pas tellement une fiction, que le ton journalistique y est, quoi, on est dedans. Et voilà, donc on va pas tarder à écouter un petit morceau de musique pour s'aérer les oreilles, si ça veut bien marcher. Donc c'était, donc je le répète, donc c'était Chaos de Noël. Hein, si vous voulez réécouter ce programme dans son intégralité, vous pouvez le trouver sur Internet, c'est là qu'on l'a trouvé. Et je ne me souviens plus vraiment du site où on peut le trouver, mais si vous tapez Chaos de Noël dans un moteur de recherche, je pense que vous pouvez le trouver facilement. Voilà. Non, ça marche pas. sinon, à part ça, enfin, c'était, je sais pas si vous avez peut-être souri ou quoi. Enfin, ça peut nous arriver de sourire en écoutant ça, mais. C'est une fiction qui est pas très loin de la réalité. Enfin, en tout cas, c'est dur à. Bon, vas-y. Bon, on va s'écouter un morceau.
My friend always end up on the same thing. This is the song him love to sing. Kedar, he had to go. Jivka, he had to go. Usa, he had to go. Honika, he had to go. Kaichesko, he had to go. Just like apartheid, we'll have to go. A while ago, my friend and me was talking. So me said to him, what a way the earth around nowadays, man. It getting harder by the day, you know where you stand. Cause when you think you're deaf and solid dry land, when you take a stop, you find you in a quicksand. You don't notice how the landscape a shift. It's like volcano one night, and nothing can stop it. Things just a bubble, just a boil down below. Strata separate and refold. And when you think you reach the mountain top, it's a brand new plateau, you go buck up. My revolutionary friend shake him head and him sigh. This was him reply. Kedar, he had to go. Jivka, he had to go. Usak, he had to go. Honika, he had to go. Kaichesko, he had to go. Just like apartheid, we'll have to go. Well, me never did satisfy with what my friend make reply. And we get a deeper meaning in the reasoning. Me said to him, well, all right. So God be give the people them glashnas, and it for the Stalinist them plenty problems. So God be let a perish strike upon them, confounding bureaucratic stratagems. But we have to face up to the cold facts. Him also open up Pandora's box. Yes, people power just a show every hour, and everybody claim them democratic. But some are wolf and some are sheep, and that is problematic. So things like that you would call the dialectic. My revolutionary friend pause a while and him smile. Then him look me in my eye and reply. Kedar, he had to go. Jivka, he had to go. Usa, he had to go.
Honecker, he had to go. Kaichesku, he had to go. Just like apartheid, we'll have to go.
Donc voilà, c'était un petit morceau de LKJ, Me and My Revolutionary Friends. Et donc, le petit montage, enfin, le montage qu'on avait écouté là, au Chaos de Noël, eh ben, c'est pas si loin de la réalité. Il y a quelques jours, je crois, avant lundi, il y a un mec qui s'est fait tuer par 4 vigiles à Lyon-Pardieu, au carrefour de Lyon-Pardieu. Donc, bon, après, voilà quoi. Donc, on n'est pas. C'est vraiment un peu le Chaos de Noël, quoi. Et sinon, là, on va vous passer un petit montage qu'on a fait par rapport à la nuit de la Saint-Sylvestre et tout ce qui s'y passe comme fête. Bon, pas fête au sens commun du terme, enfin commun, mais fête au sens où certaines personnes s'amusent avec des feux de joie urbains, quoi. Enfin, voilà, qui crament des voitures. C'est comme. C'est un peu les hippies urbains, quoi.
En tout cas, on attend avec impatience les chiffres qui vont tomber demain, puisque l'an dernier, donc au 1er janvier 2009, 1147 véhicules avaient été brûlés donc sur tout le territoire, et alors que l'année précédente, seulement 973. Donc on attend avec impatience les nouveaux chiffres.
Voilà, donc il y a une genre de concurrence entre certains endroits de la France qui cramera le plus de voitures.
Et souvent, c'est quand même la ville de Strasbourg qui est le plus fort. Non,
ah, mais c'est des idées reçues, je trouve. Ça... il y a...
Incendie de voiture, violence ou braquage, les fêtes de fin d'année sont généralement chargées pour les forces de l'ordre.
Putain !
Une voiture qui est cramée, 2, 3, 4, 5, 6. Une voiture qui est cramée, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 10 voitures qui crament là.
Accusé !
Ça crame là. Mais oui!
La scène s'est reproduite 425 fois dans 53 départements. De quoi satisfaire le premier flic de France?
2, 3, 4, 5! 2, 3, 4, 5!
La scène s'est reproduite 425 fois. De quoi satisfaire le premier flic de France?
Le pays, les incidents pendant cette nuit de la Saint-Sylvestre ont été limités. Bien sûr, il y a eu tout de même des voitures brûlées plus que l'an dernier, mais moins que redouté. Plus que l'an dernier. Plus que l'an dernier.
Ça tremble. Mais oui.
Ça claque de partout, le spectacle est impressionnant.
Voici la Mercedes qui est en train de brûler à Neville et Dieppe, les explosions, hardcore. Un film de voiture, elle explose.
Putain, elle est morte, la voiture.
Mais la situation est maintenant maîtrisée. Quand soudain un abruti décide de faire claquer un feu d'artifice puissant non loin du véhicule des pompiers, un policier municipal sera assourdi par l'explosion.
Ça tremble. Mais oui.
De quoi satisfaire le premier flic de France?
Ça tremble. Mais oui.
Concernant les particuliers, j'ajoute que l'opération Tranquillité Vacances est étendue pour la première fois aux fêtes de fin d'année. Si vous partez en vacances d'ici le 3 janvier, donc, vous pouvez faire surveiller votre domicile par la police en contactant le commissariat le plus proche de chez vous.
Ouais, bonne année en fait, c'est vrai, hein. Excusez-moi, faut que je l'allume quand même.